France Inter. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat bien sûr avec le journal Le Monde. Ce serait un sacré bouleversement dans la vie politique française. Marine Le Pen, inéligible, éliminée de la prochaine élection présidentielle, tout dépendra du jugement demain dans l'affaire dite des emplois fictifs du Rassemblement National. Celle qui caracole en tête des sondages verrait donc son destin élyséen s'arrêter définitivement. Et puis, autre procès retentissant cette semaine, les réquisitions lourdes contre l'ancien président Nicolas Sarkozy dans cette affaire tentaculaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Deux affaires judiciaires et une question qui revient. Les juges peuvent-ils s'immiscer dans la vie et les carrières politiques? Le sujet manifestement dérange et divise. Ne sont-ils pas eux aussi les garants du bon fonctionnement de notre démocratie? On en parle avec notre invité, le député Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l'Assemblée. Il est ce dimanche dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Vincent Jeanbrun.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation sur France Inter. Avec moi pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Françoise Fressoz du journal Le Monde. Bonjour à toutes
bonjour.
Les deux.
Bonjour.
On commence cette émission, comme toujours, avec vos images de la semaine. Retour sur ce qui vous a marqué dans l'actualité. On débute ce tour de table avec l'invité. Qu'est-ce qui vous a frappé en particulier, vous, Vincent Jeanbrun?
J'étais marqué par cette nouvelle terrible attaque au couteau en Essonne qui marque à chaque fois un petit peu les esprits, parce que au-delà du drame, et on pense évidemment aux proches et à la famille, il y a ce sentiment d'impuissance.
Mais redis-nous ce qui s'est passé en fait, parce que tout le monde n'a pas.
Il y a eu cette agression au couteau dans la commune de Hyères en Essonne, avec un jeune de 19 ans qui en a poignardé un autre.
Et de donc 17.
Encore et toujours dans cette attaque à l'arme blanche de jeunes, de mineurs devant des établissements,
scolaire.
À tel point que le ministre de l'Intérieur a été, dans les jours qui ont suivi, regarder des initiatives où on se met à fouiller les sacs. On imagine bientôt des détecteurs de métaux comme aux États-Unis. Et ça fait froid dans le dos, à la fois par l'horreur, par le drame, mais aussi par notre incapacité à réagir. Ça fait maintenant des années que ce type de nouvelles, d'attaques, d'assassinats à l'arme blanche dans des établissements scolaires sur des mineurs, défraient la chronique. Et à ce stade, on est en incapacité de réagir. Et je pense notamment à une prise de parole qu'a eu David Lisnard tout récemment en disant.
Alors, Robert
en tant
de Cannes,
que
les Républicains.
Voilà, et puis surtout président de l'Association des maires.
Exactement.
En disant. Tous les maires aujourd'hui, quasiment tous, toutes tendances politiques confondues, appellent l'État à reprendre la main sur le régalien et sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, on a un État qui va dépenser de l'argent pour vous aider à recoudre un pull ou qui va globalement financer des passes culture, y compris pour des familles très aisées, par exemple, qui n'en auraient pas forcément besoin. Par contre, on ferme des commissariats et on enlève des effectifs
mais
sur le
rappelez-nous
terrain.
Qui donc est le ministre de l'Intérieur aujourd'hui.
Mais
sarcastique.
Vous avez raison. Vous avez raison.
C'était sous qui
Nicolas Sarkozy, raison. Note
maintenant,
de battage aussi.
Moi, je vous le dis très clairement, on a un appel dans le pays et particulièrement chez les élus locaux à ce que l'État reprenne la main sur les questions du régalien. Et vous me demandez qui est le ministre de l'Intérieur. Je crois que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne dit pas autre chose. Il appelle justement le gouvernement à dégager les marges de manœuvre pour qu'on puisse remettre des policiers
sur le terrain. Mais ça veut dire quoi, les moyens? Ça veut dire juste dire.
Juste pour vous l'ayez en tête. Juste que les auditeurs l'aient en tête, on a plus de policiers par habitant que l'Allemagne, un tout petit peu plus, mais beaucoup moins sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a mettre des policiers, avoir plus de policiers en effectif, et également faire en sorte qu'ils aillent plus sur le terrain, moins de paperasse, moins de procédures administratives. C'est un enjeu. Puis je pourrais vous parler, si vous le souhaitiez, de la police municipale, parce que les maires aussi ont besoin d'avoir des polices municipales efficaces et beaucoup plus actives. Donc, bien sûr, on a un ministre de l'Intérieur.
Et avant, Gérald Darmanin qui s'était vanté aussi d'avoir reconstitué, réformé.
Et ben il faut aller encore plus loin et il faut les soutenir et les encourager, parce qu'on ne peut pas accepter d'ouvrir la télé, d'allumer la radio et d'avoir encore des meurtres à l'arme blanche.
Non, mais
dans les
pardonnez-moi,
établissements
ça veut quand même dire que quand on met les LR, pour poursuivre la question de Françoise Fressoz, aux manettes sur vraiment les ministères qui peuvent faire quelque chose, il ne se passe rien. Donc quand j'entends vos discours qui consistent à dire voilà, il faut reprendre les choses en main, ça veut dire concrètement. On fait quoi ?
On peut pas dire qu'il se passe rien. L'exemple de la loi narcotrafic, par exemple, qui est en train d'être portée à l'Assemblée nationale, qui sera votée la semaine prochaine, portée par Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, c'est la preuve qu'il y a des avancées. Maintenant, la situation est grave, il va en falloir beaucoup plus, et vous aurez noté que le Premier ministre n'est plus, depuis Michel Barnier, de la droite républicaine, et on a un enjeu majeur, c'est de dégager les marges de manœuvre dans les arbitrages du gouvernement. Donc, on a un ministre à la tâche, mais ce ministre, il a besoin d'être soutenu par son Premier ministre et par ce gouvernement.
Donc ça veut dire que François Bayrou en fait n'aide pas suffisamment son ministre de l'Intérieur pour avoir des moyens supplémentaires.
On n'a pas dégagé les marges de manœuvre financières pour aller plus loin.
Un message à faire passer à François Bayrou, j'ai l'impression.
Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important que le groupe de la droite républicaine à l'Assemblée nationale, présidé par Laurent Wauquiez, puisse avoir une parole libre et puisse dire, monsieur le Premier ministre, on a des ministres de qualité qui portent des combats honorables, c'est vrai de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, mais c'est vrai de la ministre de l'Agriculture par exemple, donnez-leur les marges de manœuvre financières pour qu'on avance sur le terrain. C'est ce qu'attendent les Français.
Indépendamment des marges financières, c'est-à-dire tout ne se résout pas toujours que par les moyens. Un maire d'Essonne, qui se croit le maire de Saint-Yon, disait qu'il y avait une concentration chez lui et dans l'Essonne de ce genre de choses. Et parlait de rixe tribale. Qu'est-ce que ça veut dire, ces rixes tribales? Est-ce que vous constatez la même chose?
Alors, attendez, je poursuis parce que l'Essonne, j'ai découvert justement en travaillant sur tout
qu'elle regroupait 25% à peu près.
Des bandes rivales.
Voilà,
des bandes rivales. Qui de bandes rivales.
Et qu'il y avait une sorte de précipité dans cet endroit de tout ce qui pouvait se passer en France, finalement, de façon moins pérenne et moins fréquente. Donc, rixes tribales, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'intégration? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ne se passent pas correctement? Est-ce que ça veut dire que vous, avec votre expérience de terrain, vous avez constaté des choses similaires?
Si par tribal.
Qui a dit ça?
Le maire des Saint-Yon, Y-O-N.
Si par tribal on parle de logique ethnique,
ouais, voilà.
Pour le coup, moi, je partage pas et je ne l'ai pas expérimenté à titre personnel. En revanche, qu'il y ait une logique de gang, absolument. On a aujourd'hui un phénomène qui est arrivé en Île-de-France et je crois à Marseille dans quelques grandes villes, qui se calque sur ce qu'on peut imaginer des gangs latinos aux États-Unis, avec des systèmes d'appartenance par tatouage, par tenue vestimentaire, par quasiment une sorte d'argot personnalisé dans chacun des gangs, et avec cette volonté d'aller attaquer, conquérir le territoire des autres gangs. On l'a vu, et d'ailleurs on l'avait même vu pendant les émeutes, avec cette idée que finalement, à force d'avoir fait le ménage autour d'eux, certains gangs avaient besoin de continuer à affronter quelque chose, et ils étaient venus affronter la République, affronter les forces de l'ordre. Donc vous avez raison, et c'est pour ça qu'il va falloir que, au-delà de l'aspect effectivement effectif pur, on se dote aussi d'un système judiciaire qui nous permette d'aller beaucoup plus loin et faire en sorte de casser ces criminalités organisées qui ont des phénomènes quasi sectaires.
La justice n'a pas failli, hein. Il y a tout de suite 6 jeunes qui ont été déférés, il y en a 5 qui se sont retrouvés en garde à vue, il y en a un qui, ça y est mis en examen, ça a été très vite. Hein.
Et je m'en réjouis, la question est surtout comment on fait en sorte qu'il n'y ait plus cette, pour reprendre l'expression de Gérald Darmanin qui était l'ensauvagement, comment on fait en sorte que les jeunes demain, les petits frères de ceux qui ont été mis en cause, ne se disent pas c'est normal de se balader avec des couteaux, c'est normal d'aller poignarder quelqu'un s'il nous a insulté ou manqué de respect, et c'est ça le défi qu'on a à mettre en place. Ça passe évidemment par la répression, ça passera aussi par la prévention, et l'éducation nationale a un rôle majeur pour ça.
Allez, autre image, celle de Françoise, le départ du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.
Oui, événement moins dramatique que celui qu'on a
mais important
évoqué,
aussi.
Mais quand même significatif.
On va voir.
Alexis Kohler, les Français ne le connaissent pas bien. Ils le voyaient au moment des changements de gouvernement, quand il égrenait la liste des ministres. C'est un personnage clé. Il a travaillé à l'Élysée 8 ans, côté d'Emmanuel Macron, et même 10 ans, si on prend aussi les années au ministère de l'Économie et des Finances. Ils étaient extrêmement complémentaires, on l'appelait le deuxième cerveau du président. Ils ont construit, au fond, la politique qu'ils ont essayé de mettre en place, la politique de l'offre, et puis, depuis 2022, cette espèce d'antienne de dire, en fait, le pays ne s'en sortira qu'en produisant plus, en ayant plus de richesses. Voilà. Mmh. Alors, c'est un moment important parce que ça aurait pu correspondre à une fin de règne, en se disant, bon, bah, ça y est, c'est fini. Il y a eu sans doute des divergences entre eux au moment de la dissolution. Il y a eu aussi sans doute beaucoup d'attaques contre Alexis Kohler, que certains qualifiaient de beaucoup trop techno, coupé. Mais au fond, le moment où il part est intéressant. Il part au moment où Emmanuel Macron Macron est remonté sur la scène européenne internationale dans un moment clé pour le pays, et pas en assumant le bilan, en disant écoutez, nous on a fait ce qu'on a pu, et on continue à défendre la politique de l'offre, le fait qu'il va falloir travailler plus. On ne sait pas si ça va marcher, mais il peut partir à un moment où c'est en continuité, où c'est en débat, et je trouve que c'est en fait à l'image du macronisme, où la gauche et la droite sans arrêt disent, c'est fini, c'est une parenthèse, on ne veut plus en entendre parler, ben non, ça continue, même s'il y a un départ important qui est le départ du deuxième du cerveau d'Emmanuel Macron.
On termine avec vous, Nathalie Saint-Cricq, qui est l'image du président ukrainien qui était à Paris mercredi et jeudi.
Oui, et l'image notamment de l'interview, alors je ne dis pas ça parce qu'on travaille dans le service public, mais effectivement par Caroline Roux, la télé allemande, la télé anglaise, c'est en gros une espèce de préfiguration chez les journalistes de l'Axe qui est en train de se constituer pour défendre l'Ukraine. Simplement, comme j'y étais, mais comme 50 personnes qui voulaient voir par curiosité, j'ai eu vraiment l'impression que pour quelqu'un qui doit être usé, épuisé par la guerre, que pour quelqu'un qui parcourt le monde en permanence, se fait humilier par Donald Trump, se fait réconforter par Emmanuel Macron, soutenir par Keir Starmer, plutôt soutenir par les Allemands, il a un dynamisme et une sympathie et un charisme. On l'a vu, c'est peut-être pas intéressant, mais je l'ai vu avec tous les opérateurs son, les gens, leur dire merci, leur dire au revoir, leur poser des questions. C'est-à-dire pas du tout une espèce de ramenard qui pourrait, parce qu'il est quand même, il a fait quand même un certain nombre de choses, et se dire que franchement, il transparaît un peu chez lui cette espèce de. Alors c'est peut-être naïf, hein, parce que je me fais aucune illusion sur les Ukrainiens. Il suffit de voir son service d'ordre pour comprendre qu'ils sont pas tous à l'image de Zelensky. Mais il y avait quelque chose qui donnait envie de le soutenir, envie d'avoir des valeurs en commun avec lui. Voilà, c'est un coup de cœur. C'est peut-être pas très objectif, mais c'est comme ça.
On a entendu des peines complètement hors sol. Sans aucun rapport avec les 3 mois d'audience, pour masquer ses faiblesses, pour dissimuler ses carences probatoires, le parquet parle fort et demande des peines élevées. C'est pas ça la justice. Et on a encore quelques semaines de plaidoirie avec nos confrères et pour notamment Nicolas Sarkozy, démontrer que ces réquisitions, même s'ils sont dites avec un ton sentencieux qui se veut sévère, elles sont vides, elles sonnent creux.
D'abord sur ce procès qui dure depuis maintenant 12 semaines, le procès sur le présumé financement libyen de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy. Réquisition sévère donc, dit en substance l'un des avocats de l'ancien président, maître Christophe Ingrin. Je rappelle ces réquisitions, 7 ans de prison requis contre Nicolas Sarkozy, 300 000 euros d'amende, 5 ans d'inéligibilité. Vincent Jeanbrun, votre réaction tout simplement pour commencer?
Écoutez, encore une fois, moi je suis ni juge, ni avocat, ni procureur, et je veux faire confiance à la justice de mon pays. Mais comme tout citoyen, je lis à travers la presse ce qu'il y a là-dedans, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai toujours pas compris ce qui était les preuves manifestes qui permettraient d'aller sur des réquisitions aussi fortes. Donc, très sincèrement, je trouve qu'il y a une forme d'acharnement, et on a le sentiment que les juges combattent moins le crime que Nicolas Sarkozy. Je le dis en tant que simple citoyen, je trouve ça un peu exagéré, et j'espère que effectivement, les avocats sauront avoir gain de cause face à cela.
Les avocats de la défense.
Les avocats de la défense. Parce que, encore une fois, soit on a des preuves manifestes, irréfutables, et dans ce cas-là, tout crime mérite d'être condamné, soit il n'y a pas de preuves.
Mais là, le faisceau d'indices ne vous a pas convaincu.
Alors, le faisceau d'indices que je. Même, y compris que je lis d'ailleurs dans la presse, ne m'a pas convaincu, effectivement.
Effectivement, Maître Ingrin considère et dit que c'est plus des faisceaux d'indices qu'une preuve, et que pour l'instant, le dossier est plutôt vide, même s'il y a des présomptions. Est-ce que vous trouvez que son ancienne famille politique, ou sa famille politique actuelle, à savoir les Républicains, a suffisamment pris position pour dire, par exemple, ce que vous dites, vous, en disant, finalement, on juge plus l'homme que le crime, c'est exactement vos propos, et qu'en gros, on a eu l'impression un peu qu'il y avait un silence assourdissant. Je ne parle pas de Brice Hortefeux et de Claude Guéant qui sont concernés, mais chez son ancienne famille, chez des gens comme Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, il y a plein de gens qui auraient pu dire « on s'acharne sur lui ».
Il y a peu de gens, c'est vrai, qui se sont exprimés dans la famille politique de la droite.
Encore une fois, il y a une procédure qui est en cours. Donc, on n'a pas l'habitude de commenter une procédure judiciaire.
Alors, c'est là que c'est très intéressant.
Sauf que là, on arrive au bout, on voit un réquisitoire qui est quand même excessif, encore une fois, je le ressens en tant que citoyen, et encore une fois, sans avoir des preuves. On va parler dans un instant de Marine Le Pen.
Ça, vous l'avez dit simplement.
Dans le cas de Marine Le Pen, il y a des mails, il y a des preuves, c'est extrêmement clair sur le fait qu'il y a eu des entorses à la loi. Là, on est, c'est même pas du faisceau d'indices, quoi. C'est du faisceau de présomptions, de rumeurs. Enfin, c'est quand même surprenant. Et donc après, notre famille politique, d'ailleurs, c'est au-delà de la famille politique. Il a été président de la République française, il a été le président des Français. Il s'est battu pour que ce pays garde son rang et sa place. Et je trouve que là, il y a une forme de volonté quasiment d'humiliation, et je le regrette.
Françoise.
Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'au fond, il y a deux attitudes. Il y a ceux qui disent on ne commente pas les décisions de justice, et là, on s'est mis à commenter un réquisitoire. Donc, c'est quand même... on n'est pas au jugement. Donc, on a l'impression qu'il y a aussi une volonté de dire bah, les juges, ils sont pas neutres, les juges, ils cherchent des noises. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux se taire et attendre la décision ?
Oui, après c'est vous qui m'interrogez, je réponds. Mais en l'occurrence, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Et quand il y a des preuves, bah, encore une fois, moi, un politique.
Non, attendez, pardonnez-moi, je vous coupe juste un instant. On peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Pardonnez-moi, on peut pas dire qu'il n'y a pas de preuves. Il y a eu des années d'enquête, il y a des carnets, il y a des sommes d'argent qui ont été échangées, il y a des choses qui se sont passées en Suisse. Tout ça a quand même été révélé. Tout ça, enfin, je veux dire, ça fait encore une fois des années.
C'est pas la lecture que j'en fais en tant que simple citoyen.
Ce n'est pas la lecture que vous.
Ni avocat, ni juge, ni procureur. Mais en l'occurrence, moi, je vous dis, je m'informe dans la presse et je n'ai pas compris qu'on avait trouvé sur son compte en banque personnel une somme d'argent spécifique.
C'est rarement comme ça.
Non, mais donc soit on a des preuves et on condamne, soit il n'y a pas de preuves et on évite des suppositions. Voilà, le juge doit combattre le crime, pas haïr le criminel.
Après, est-ce que c'est un procès qui est gênant pour votre famille politique, pour la droite ?
Écoutez, je crois que c'est l'image de la France qui est en jeu parce qu'on parle d'un ancien président de la République. Après, Nicolas Sarkozy a pris quand même un petit peu ses distances avec. La famille Les Républicains, notamment au moment de la présidentielle où il n'avait pas soutenu Valérie Pécresse. Donc je ne crois pas que ce soit le procès du tout d'une famille politique, contrairement à ce qui est en train d'arriver à Marine Le Pen. Et donc c'est deux choses totalement différentes.
Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez en gros que les gens que vous rencontrez ou vos administrés considèrent que les juges vont trop loin de façon générale, qu'il s'agisse, alors je dis les juges au sens large, qu'il s'agisse de ce qui a pu arriver à Nicolas Sarkozy ou de ce qui va peut-être ou non arriver à Marine Le Pen demain, est-ce que vous sentez monter une espèce de réaction anti-juge, que ça aille de la Cour suprême ou de la Cour européenne des droits de l'homme?
Il y a plusieurs choses dans votre question. La première, on parle assez peu de l'affaire de Nicolas Sarkozy pour le moment. Évidemment, la question de Marine Le Pen, mais je pense qu'on va en parler, elle est plus sur les enjeux autour de la démocratie et est-ce qu'on l'électeur a le dernier mot ou pas? Mais par contre, là où je vous rejoins, c'est que il y a une tendance.
Ça n'est pas mon avis, hein, c'est une question.
Non, mais sur le fait qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui soit un peu, si ce n'est anti-juge, en tout cas, un certain décrochage entre le peuple et la justice qui est censée rendre la justice au nom du peuple, il y a une incompréhension. Et je voudrais juste vous prendre d'un mot l'exemple du maire de Franconville, en Île-de-France, dans le Val d'Oise, qui se bat pour expulser des criminels du logement social. Les jugements cette fois, sont tombés et les juges disent, oui, ce sont des criminels, l'un dort même en prison actuellement, mais je me refuse à leur enlever leur logement social. Eh bien, qu'ils aient raison ou pas, et je pense qu'en tant que juge, ils ont jugé en fonction du droit, hein, je ne leur mets pas en cause, ça crée une incompréhension chez les honnêtes citoyens qui sont autour, chez le maire lui-même, et on en vient à se dire, mais comment fonctionne la justice dans le pays? Et un pays où le peuple décroche de sa justice, en général, c'est inquiétant. Donc il y a certainement des choses à reprendre en main.
On a déjà deux procès dont il faut qu'on parle. Donc on va rester sur ces deux-là. J'aurais effectivement qu'on avance et qu'on parle du procès des assistants fictifs du Rassemblement National, donc du procès qui concerne Marine Le Pen. Le jugement est attendu demain matin, je le disais en introduction. Marine Le Pen qui pourrait écoper donc d'une peine d'inéligibilité qui l'empêcherait d'être candidate à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que cette considération électorale, politique, doit être prise en compte par les juges ?
Déjà, revenons quand même à la base. Mmh. Est-ce qu'il y a eu une faute ? Est-ce qu'il y a eu crime ? Et s'il y a crime, il doit être condamné. Là aussi, en tant que simple citoyen, sans être avocat, sans être juge, sans procureur, je constate que là, on a trouvé énormément de traces, énormément d'emails, que était payé par le Parlement européen le garde du corps et le majordome de la famille Le Pen.
Marine Le Pen dit que c'est flou. Hein,
écoutez,
votre défense sur Nicolas Sarkozy, elle l'applique sur son procès à
elle. Écoutez, moi, j'ai lu des des mails dans la presse. Donc, encore une fois, c'est pas le jugement. Mais donc, si je prends le parallèle avec un chef d'entreprise, chef d'entreprise qui aurait commis une faute de gestion, on trouverait normal qu'il soit condamné, qu'il y ait une amende, et même qu'on lui interdise de continuer à gérer une entreprise pour une durée déterminée. Donc, moi, ça ne me choque pas. Si Marine Le Pen est reconnue coupable, qu'elle soit mise à l'amende, qu'il y ait une amende à payer, qu'elle soit condamnée, et que, de fait, elle paye pour ses crimes, voire même qu'on dise, faute de gestion...
C'est pas des crimes, c'est des délits.
Oui, délits, pardon, excusez-moi.
Devant un tribunal correctionnel.
Vous avez raison, merci.
Je crois qu'on ne dit même plus comme ça, d'ailleurs.
Mais en l'occurrence, il faut payer. Ensuite, il y a la question de la démocratie, et objectivement, je pense que ce serait terrible parce que il y a des Français aujourd'hui qui voudraient qu'elle puisse se présenter et qui, à mon avis, ne comprendraient pas qu'elle soit empêchée par la justice, ce qui aurait des conséquences
assez
graves.
Voilà, il y a 11 millions d'électeurs, ils n'arrêtent pas de le répéter au sein du Rassemblement National. Est-ce que ça peut être considéré comme une immunité judiciaire? Est-ce que vous pensez que ça doit être ou ça peut être?
Je pense qu'il faudrait qu'au niveau du Parlement, on revoie la loi Sapin, parce que c'est par cette loi Sapin 2 qu'il y a cette inéligibilité prononcée immédiatement. Et là-dessus, effectivement, ça crée encore plus d'incompréhension au niveau des citoyens, donc ça méritait d'être regardé. En revanche, là, les juges, ils jugent en fonction de savoir s'il y a eu ou pas entorse à la loi, et ça doit être leur seule boussole, en l'occurrence. Maintenant, ce qui compte, c'est que la formation politique que représente Marine Le Pen puisse participer au débat démocratique. Je crois que les grands caciques du RN parlent du plan B comme Bardella. Donc on verra bien si ils sont portés aux élections ou pas.
C'est intéressant, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que sans Marine Le Pen, le parti d'extrême droite en France, finalement, peut continuer à fonctionner? Ou est-ce que la marque Le Pen est importante pour l'extrême droite?
Je comprends bien que dans une famille politique où on hérite du parti de père en fille, c'est compliqué de se détacher de la famille Le Pen. Mais la vérité, c'est que, encore une fois, ce qui compte, c'est que le débat démocratique puisse se faire. Si demain, la justice empêchait une formation politique dans son ensemble de participer au débat démocratique, là, on aurait une sorte d'attaque à la démocratie. Là, c'est pas le cas. Il y a une politique qui est justiciable, comme tous les autres Français. Si il est avéré qu'elle a commis une faute, eh bien, elle doit être sanctionnée, et sa famille politique pourra continuer à se battre. D'ailleurs, j'entends dans les couloirs de l'Assemblée nationale certains dire, de toute façon, on imaginait Marine Le Pen présidente, Bardella Premier ministre, et ben ce sera peut-être Bardella président et Marine Le Pen Premier ministre, puisque elle n'est pas empêchée. Voilà. Il y a cet esprit un peu Poutine-Bemmette.
Jordan Bardella, vous trouvez qu'il a l'envergure d'ores et déjà pour...
C'est pas à moi de vous dire si j'ai l'envergure, mais en l'occurrence, on le combattra sur le terrain des idées. Moi, c'est pas ma philosophie politique.
Deux questions précises. Vous dites qu'il faudrait revoir la loi Sapin. Est-ce que vous allez pousser pour remettre à l'ordre du jour en disant on a peut-être été trop loin dans la volonté de laver plus propre et il faut peut-être revoir cette question d'inéligibilité peut-être immédiate? Deuxième question. J'entends que beaucoup de défenseurs de Nicolas Sarkozy remettent en cause le parquet national financier. Est-ce que vous, en tant que droite, vous dites si on est élu, on remettra en cause le parquet national financier?
Il y a deux questions. Votre première question, c'est la loi Sapin. C'est toujours la même chose. Il faut qu'on soit, en tant que politique, des justiciables comme les autres. Et effectivement, dans plein d'autres situations, quand on fait appel, c'est suspensif.
C'est le législateur qui vote la loi appliquée par la justice.
Et je pense que là-dessus, effectivement, le fait d'être dans cette exécution immédiate de la peine, finalement, on n'a plus cette capacité, comme dans d'autres situations, d'avoir une suspension en cas d'appel. Personnellement, je le regrette. Je pense qu'on pourrait corriger ça. Et ensuite... il faut interroger, il faut faire le bilan, en fait, ce parquet national financier. Comment il fonctionne? Est-ce qu'il donne satisfaction? Est-ce que le peuple français...
Mais là, la droite est en train de préparer sa campagne présidentielle. Est-ce que vous le mettez à l'ordre du jour de votre projet chez les LR?
En temps voulu, on vous répondra. Mais en tout cas, il faut regarder...
Donc, c'est pas décidé pour l'instant, c'est ce qu'on comprend.
Voilà, la fonctionnalité de ce parquet financier.
Le député Vincent Jeanbrun, porte-parole du groupe LR à l'Assemblée, est notre invité ce dimanche dans Questions politiques. Il faut qu'on parle aussi de votre campagne interne pour la présidence du parti Les Républicains. Le face-à-face oppose le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, dont on a déjà parlé, à votre patron à l'Assemblée, Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de soutenir Laurent Wauquiez, parce qu'il est votre patron à l'Assemblée?
Alors, pas parce que c'est mon patron, mais parce que en tant que président du groupe à l'Assemblée nationale, je le vois travailler, je le vois dans sa capacité de rassembler les différents points de vue, les différentes personnalités, les différentes forces. Je le vois redonner de la lisibilité à la ligne politique de ce qu'on appelle la droite républicaine à l'Assemblée nationale. Faut se souvenir de ce qui se passait il y a encore un an, sur le débat des retraites, le groupe de la droite s'était écharpé, il y avait ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, etc.
Mais il est largement distancé par Bruno Retailleau, donc est-ce qu'il peut encore gagner?
Vous savez, moi, c'est ce que je trouve magnifique en politique, c'est que c'est celui qui met toute son énergie et ses forces dans la bataille qui peut l'emporter à la fin. Donc aucune élection n'est pliée à l'avance. Moi, je le soutiens, donc je suis convaincu qu'il a toutes ses chances de gagner.
Il faut quand même...
Bah écoutez, effectivement, lui, c'est le candidat des adhérents, le candidat des militants. Il fait plus de 120 déplacements partout en France pour aller au contact.
C'est ça qui est les candidats des adhérents d'un côté.
Bah, écoutez, pour moi, c'est extrêmement clair, puisque plusieurs milliers de soutiens ont parrainé Laurent Wauquiez. Mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus.
Non, officiellement, il y en a 925 et il y en a trois fois plus pour Bruno Retailleau.
Alors, non, c'est la haute autorité. Enfin,
expliquons juste.
Les deux candidats ont apporté pour l'un Bruno Retailleau un fichier Excel et pour Laurent Wauquiez un fichier Excel avec 900 noms dessus plus des parrainages papier, et la haute autorité de manière assez incompréhensible a fait le choix de n'évoquer que les chiffres qui étaient sur les tableaux Excel, ce qui a créé un écart en faveur de Bruno Retailleau. Là où s'ils avaient fait l'effort de comptabiliser les bulletins papier, on aurait eu plus de 7000 pour Laurent Wauquiez.
Donc chez vous, Laurent Wauquiez, pour votre façon de compter les choses, Laurent Wauquiez l'emporte. Et deuxièmement, vous remettez en question la haute autorité. C'est-à-dire est-ce qu'on risque de repartir comme à la bonne époque de la
Dans ces détails-là.
Parce que ça dit quelque chose sur l'honnêteté d'un parti quand même. C'est comme le PS. Si quand il y a un congrès à 50,5 face à 49,5, c'est jamais bon pour le premier secrétaire à venir.
Je remets pas en cause la haute autorité. Elle est dans son rôle. Je trouve surprenant qu'elle ait effectivement mis en débat la question de savoir s'il ne prenait que le fichier Excel ou s'il comptait les versions papier. Ils ont choisi de pas le faire, mais ils l'ont fait en se concertant, en discutant. Maintenant, on avance. Je confirme que Laurent Wauquiez est le candidat des
militants.
Et c'est celui du terrain.
Qu'est-ce qui distingue les deux candidats? Pour le grand public, là, quand on n'est pas dans les affaires internes, on a l'impression qu'au fond, la ligne, elle n'est pas très différente et que c'est juste une question de compétition d'individus. Est-ce que vous pouvez clarifier?
En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a plus de droite libérale, on a l'impression qu'il n'y a plus de droite sociale. Est-ce qu'il n'y a plus qu'une droite régalienne, une droite dure?
On est toutes les trois adhérentes. LR, une hypothèse. Qu'est-ce que vous nous dites pour nous dire qu'il
faut... J'en apprends une bonne ce matin.
C'est une hypothèse, j'ai précisé. Qu'est-ce que vous nous dites pour nous convaincre de voter Wauquiez plutôt que Retailleau?
En fait, je dézoome. C'est pas la question qui nous est posée, c'est pas celle de trancher la ligne, et c'est pas celle de savoir qui sera notre candidat pour l'élection présidentielle.
Alors c'est quoi?
Auquel cas, les idées, le fond, c'est la priorité. Là, ce qui est en jeu, c'est qui aura la volonté et le temps de mettre les mains dans le cambouis pour réparer le moteur d'une famille politique qui est totalement à l'arrêt.
Parce que donc si je vous suis bien, quand on est ministre de l'Intérieur, on n'a pas le temps, c'est ça?
C'est pas parce qu'on a eu effectivement quelques bonnes nouvelles, qu'on a aujourd'hui des ministres au gouvernement, que la famille politique, que le vaisseau amiral est en état de fonctionner.
C'est les idées ou l'organisation de votre vaisseau amiral?
C'est déjà la famille. Parce que justement, quand vous relancez l'opérationnalité de la famille, vous pouvez organiser des débats et vous pouvez trancher des questions de ligne. Pas par le haut, mais justement, c'est ce que souhaite Laurent Wauquiez, par la base. Vous adhérez à la famille politique de la droite républicaine, très bien. Et ben, qu'est-ce qu'on porte dans l'élection présidentielle? Comment on avance, etc. Et pour vous répondre, effectivement, nous sommes en soutien des ministres que nous avons au gouvernement, avec évidemment un soutien total à Bruno Retailleau dans ses fonctions de ministre de l'Intérieur. Mais moi, je considère que Laurent Wauquiez a prouvé ces derniers mois, en ayant déjà eu le courage de quitter la présidence de région pour venir défendre nos idées dans le bouillon qu'est l'Assemblée nationale, ce qui était déjà courageux. Mais surtout, il s'est tout de suite mis au travail sur une mission de refondation de notre famille politique. Et ces missions de refondation, j'y ai participé. C'est des heures et des heures de réunion avec les cadres de la formation politique, avec les adhérents, avec les militants, avec les sympathisants qui nous ont quittés, qui se posent des questions pour revenir. Ça prend un temps fou. Il faut vraiment avoir la volonté de rebâtir la machine. Et donc moi, effectivement, je soutiens le candidat qui est prêt à y mettre tout son temps.
Qu'est-ce qui a été raté quand on regarde les soutiens? Bertrand, Pécresse, Copé, Lisnard, Barnier, ils soutiennent Retailleau. Est-ce que n'y a pas un problème de personnalité de Laurent Wauquiez et au fond le fait qu'il s'est planqué pendant trop longtemps et qu'il arrive un peu trop tard. Est-ce que c'est pas ça son sujet aujourd'hui ?
Mais je veux dire, le sujet il n'est pas là pour l'adhérent LR, pour celui qui aujourd'hui font l'effort de cotiser à une formation politique pour que cette formation politique aille faire gagner leurs idées. Le sujet c'est qui pour porter le mieux nos idées. Alors effectivement, on a un ministre de l'Intérieur qui est très fort sur les questions régaliennes, qui a démontré que quand la droite était au pouvoir, on pouvait avancer et avoir des victoires. La loi de narcotrafic en est un exemple. Et puis, on a un président du groupe à l'Assemblée nationale qui est extrêmement clair et surtout qui a une parole très libre. Et vous me posiez la question de comment on convainc les adhérents. Il y a la question de la disponibilité, j'en ai parlé.
Alors ça, le côté, il ne faut pas trop fatiguer Bruno Retailleau, il a déjà beaucoup de boulot.
La question de la liberté de ton, elle est fondamentale. Quand vous avez le ministre de l'économie de ce gouvernement qui nous explique qu'il n'y a pas de problème de dépenses et qu'il n'y a aucun problème à taxer les retraités, eh bien, heureusement qu'on a la possibilité d'avoir une parole libre et qu'on puisse dire ça, on s'y oppose, pour qu'il y ait de la lisibilité pour nos adhérents.
Laurent Wauquiez, pardonnez-moi, tape aussi très fort sur la ligne sur les questions d'immigration et de sécurité.
Mais bien sûr,
de Bruno Retailleau, on sent qu'il faut...
Pas de Bruno Retailleau, du Premier ministre. François Bayrou est venu en réunion de groupe à l'Assemblée nationale de la droite républicaine et nous a dit, ne vous inquiétez pas, sur la protection de nos frontières, on sera au rendez-vous, sur la sécurité, on sera au rendez-vous. Et légitimement, parce qu'encore une fois, il a la parole libre, Laurent Wauquiez l'a interpellé dans l'hémicycle en lui disant, on en est où ? Parce que là, l'agenda parlementaire vient de tomber et on ne voit rien.
Mais là, au final, vous êtes toujours vraiment dans la coalition gouvernementale. Vous pourriez en sortir parce qu'il tape tellement fort, Laurent Wauquiez, sur le gouvernement Bayrou qu'on a parfois le sentiment quand même qu'une censure est possible et qu'en tout cas, vous avez envie de sortir du gouvernement, vrai ou faux ?
D'abord, faux, parce que la stabilité du pays est en jeu, donc la droite républicaine ne va pas censurer, ça c'est clair et net.
Vous engagez, c'est clair et net,
parce que la stabilité du pays... Marine Le Pen a joué avec le feu, et les Français maintenant ont compris à quel point l'instabilité gouvernementale avait un coût, même sur la vie quotidienne des Français. Première chose. Deuxième chose, nos ministres, chacun dans leur rôle, font avancer des causes qui nous sont importantes. Annie Genevard a porté une loi pour le monde agricole de grande qualité et personnellement je m'en réjouis et donc on fait la démonstration qu'on est efficace. Bruno Retailleau sur la loi narcotrafic avec Gérald Darmanin va permettre une avancée. Le ministre de la Santé mène des combats auxquels je tiens également. Bref, on a une démonstration. Donc moi je suis pour qu'on soutienne nos ministres, mais les soutenir, ça ne veut pas dire se taire, ça veut dire justement défendre les combats qui sont les leurs et aller plus loin. Vous voulez voir que Laurent Wauquiez mettrait en difficulté Bruno Retailleau sur la question migratoire. Moi, je veux voir l'inverse, c'est-à-dire défendre le message et le positionnement qu'a Bruno Retailleau auprès du Premier ministre, qui est quand même celui qui, au final, fait les arbitrages en termes de priorités budgétaires.
Nathalie, une dernière question sur ça. Qu'en gros, ça n'est pas intéressant pour aucune des formations politiques de censurer maintenant, c'est-à-dire mars-avril, et qu'en gros, on va attendre le vrai rendez-vous qui sera le budget 2026. En gros, on dit François Bayrou, il a jusqu'à fin juin, ou peut-être l'été, mais après on ira.
Nathalie, elle veut un calendrier, est-ce que vous en avez un à lui proposer ?
Exactement. Et je voudrais savoir si, quand vous dites on ne va pas le censurer, c'est quelque chose qui est valable, pour quelle durée. Et ensuite, il y a aussi une possibilité de Bruno Retailleau, à un moment donné, de sortir du gouvernement. Comme ça, il sera totalement libre. Donc, le fait que ce gouvernement ne condamne pas mais forcément...
Votre engagement à ne pas censurer, ça dure combien de temps ?
Moi, je suis porte-parole de la droite républicaine, donc le groupe à l'Assemblée nationale, et nous avons fait le choix, en conscience, de défendre la stabilité du pays. Donc, pas de censure. Pas de censure.
D'accord.
Voilà, c'est très clair. Si demain ce gouvernement devait tomber, qu'il y en ait un autre, on se reposerait la question sur un nouveau gouvernement. Mais là, à l'heure actuelle, pas de censure. Mais on a dit, pas de censure, mais partenariat exigeant. Exigeant, ça veut dire qu'on se dit les choses. Et quand on vient en réunion de groupe nous dire, vous inquiétez pas, on va faire des choses sur la protection des frontières, on va faire des choses sur la sécurité, et qu'on ne voit rien venir, on a la liberté de ton pour le dire. Et Laurent Wauquiez a eu raison d'interpeller dans l'hémicycle le Premier ministre. Ça me paraît fondamental. Donc, pas de censure, parce que ça coûterait trop cher au pays, c'est pas le sujet. Soutien à nos ministres, et on est heureux qu'ils soient dans le gouvernement et qu'ils agissent. Et puis, liberté de ton pour défendre les valeurs de droite.
Voilà. Allez, Vincent Jeanvrain, venons-en à l'aide des Européens à l'Ukraine et à ce que pourrait devenir notre future défense européenne. Voilà ce qu'en disait le président Macron cette semaine à l'occasion du sommet de l'Élysée qui a rassemblé la coalition des volontaires et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. On écoute Emmanuel Macron.
Ces forces de réassurance, c'est l'objet de la proposition franco-britannique d'il y a plusieurs semaines, n'ont pas vocation à être des forces de maintien de la paix. J'ai répondu hier à l'un de vos collègues pour bien clarifier ce point. Elles n'ont pas vocation à être des forces présentes sur la ligne de contact. Elles n'ont pas vocation à être des forces qui se substituent aux armées ukrainiennes. Mais ce seraient des forces présentes dans certains endroits stratégiques pré-identifiés avec les Ukrainiens qui signeraient un soutien dans la durée, une réassurance des Européens et auraient un caractère de dissuasion à l'égard d'une potentielle agression russe.
Alors je précise que vous êtes membre de la commission des affaires étrangères, qu'on n'entend pas toujours beaucoup, hein, vu le niveau de tension qui est en ce moment au niveau international. On est content de vous avoir. Donc Vincent Jeanbrun, est-ce que vous êtes d'accord avec le président Macron? Est-ce qu'il faut cette force de réassurance? Et donc est-ce que vous êtes d'accord pour que des soldats français aillent sur le terrain ukrainien?
Je suis d'accord pour que les Européens se mettent d'accord pour se protéger. Des menaces sont très très fortes et je pense que là-dessus, de manière raisonnable, le président de la République avance sur une ligne qui est absolument nécessaire. Donc oui, je suis pour qu'on soit en capacité de se défendre, qu'on ne soit jamais la force d'attaque, mais qu'on soit la force de paix. Et là-dessus, oui, je rejoins sur l'idée qu'on doit pouvoir protéger les Ukrainiens. Et pour le coup, je reprends une formule.
Mais le protéger en allant sur le terrain ou pas? Parce que là, vous ne répondez pas vraiment à ma question.
Oui, il faut aller sur le terrain, bien entendu. Encore une fois, sans jamais être dans une logique de guerre, mais dans une logique de paix.
Et il faut avoir une logique de casque bleu, si vous voulez. Pas le dispositif.
Mais évidemment, parce que justement, il faut qu'on tire de cette crise avec les États-Unis une force qui est celle d'être entre Européens et de retrouver une capacité à nous défendre. Je suis en commission des affaires étrangères, pas en commission de la défense. Il y a une petite différence à l'Assemblée nationale, là où elles sont fusionnées au Sénat. Mais évidemment, on reçoit des parlementaires de tous les pays, y compris des pays d'Europe, quand vous discutez avec une délégation de parlementaires finlandais. D'ailleurs, ils viennent avec toutes les tendances politiques représentées. Et ils sont tous unanimes pour dire « la Russie se prépare à envahir l'Europe ». Et croyez-moi, ils le font pas dans une logique de nous faire paniquer ou de faire le buzz. Hein. Ils viennent nous alerter en disant il faut se mobiliser parce que si on veut que ça n'arrive pas, il faut se préparer. Qui veut la paix prépare la guerre. On en est là. Je préférerais que ça ne soit pas le cas. J'ai un garçon qui va bientôt fêter ses 10 ans. Je n'imagine pas un jour devoir l'envoyer au front. Mais j'ai le sentiment aussi que le meilleur moyen d'éviter ça, c'est de se préparer et d'avoir la capacité à dissuader, comme dit le président de la République.
Est-ce que l'opinion française est suffisamment mobilisée et que le Parlement en général est suffisamment mobilisé par rapport à tous ces nouveaux enjeux? On dit qu'il faut augmenter les dépenses militaires de façon substantielle. Il n'y a pas vraiment de débat, il n'y a pas vraiment... Est-ce qu'on est en position d'aborder ce sujet?
Mon sentiment personnel, c'est qu'il y a énormément de pédagogie à faire. On part de loin. C'est tellement plus facile de dire « mais arrêtez, c'est exagéré, il n'y a pas de risque, passons à autre chose, vive la paix ».
J'ai l'impression que les Français comprennent très bien ce qui se passe. Hein.
Oui, mais la question qui m'est posée, elle est au Parlement.
Oui.
Et au Parlement, vous avez certaines formations politiques, comme celle de Madame Le Pen, qui globalement minimisent à chaque fois les enjeux autour de la Russie en disant quasiment « Monsieur Poutine est notre allié ». Donc vous voyez, il y a un enjeu de pédagogie à ce niveau-là. À l'autre bout de l'échiquier, vous avez chez la LFI une espèce de d'antimilitarisme primaire parfois dans les prises de position qui fait que de toute façon on peut pas avoir ce débat et puis toutes les autres forces politiques même si elles sont convaincues qu'il va falloir qu'on se défende se posent la question de comment on finance.
Mais c'est pas le sujet là pour le débat aujourd'hui, vous avez pas envie de vous en saisir?
Personnellement je m'en saisis, c'est pour ça que je vous réponds avec autant de vigueur et je suis convaincu que dans les semaines et les mois qui viennent ça va être tellement au cœur de l'actualité que on va finir par dégager des consensus. Mais on en est encore dans une phase où effectivement, il faut se mettre d'accord. Là où je prenais l'exemple de la délégation finlandaise qu'on a reçue, quelle que soit leur tendance politique, ils s'étaient mis d'accord.
C'est la sauvegarde très vite.
Donc il y a cet enjeu. Et moi, je veux pas être alarmiste. Je veux pas que les Français qui nous écoutent se disent voilà, ils sont en train de jouer avec la guerre. Non, c'est pas le sujet. Mais encore une fois, si on veut la paix, il faut se préparer à se défendre.
Est-ce que vous seriez capable, c'est pas un test, est-ce que vous considérez que les mots employés par Emmanuel Macron, disant il va falloir faire des efforts et avoir du courage, c'est quelque chose que vous diriez à vos électeurs ou aux gens des Républicains, ou plus largement, leur disant, il faut se faire à cette idée-là? Parce que les Français sont mobilisés, sont d'accord, mais quand il s'agit de savoir sur quoi on taille dans les dépenses, quand il s'agit de savoir quelle nature de quelle nature est la force qui ira sur le terrain, ça devient un peu plus compliqué. Vous pourriez dire effort, courage, et Laurent Wauquiez.
Et à qui voilà.
J'ai l'impression que ça fait des années, pour pas dire des dizaines d'années, qu'on dit aux Français tous les jours et tous les ans effort et courage. Donc c'est pas les mots, le sujet c'est les actions concrètes.
Oui, mais faut donner la ligne quand même.
On a des généraux, on a des militaires français, européens, qui viennent dans les commissions des affaires étrangères, qui viennent dans les commissions de la défense, qui nous alertent et qui nous disent que les menaces sont très sérieuses et qu'il faut relever l'effort. Donc moi je serais plutôt pour aller explorer les idées de mobilisation de l'épargne, comme par exemple sur des livrets. Un livret autour de la défense, ça pourrait être une solution. Le ministre de l'économie veut une formule un peu différente en allant financer les entreprises de l'industrie militaire. Je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Et d'ailleurs que ce soit d'une certaine façon gagnant-gagnant. C'est-à-dire que je mobilise mon épargne, elle est rémunérée et ça permet
à l'État de mobiliser... Vous croyez que ça s'appelle gagnant-gagnant?
Bah écoutez, en tout cas,
il y aura ni effort ni courage et les choses se terminent.
On a besoin de moyens. J'ai échangé avec le président du Sénat la semaine dernière et on parle quand même de plusieurs milliards à mobiliser. Donc il va falloir trouver des solutions parce qu'on ne sait pas où les prendre sinon à l'heure actuelle.
Une question très concrète. Vous disiez se préparer à la guerre pour préparer la paix. Est-ce que la droite aujourd'hui est favorable au retour du service militaire obligatoire? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une mesure importante?
Écoutez, je ne veux pas parler au nom de toute la droite, mais ça mériterait d'être tranché. Je pense que globalement, la droite y est favorable. À titre personnel, j'y suis également favorable parce que je pense que ça, à la fois, ça va permettre de préparer des générations et en même temps, c'est quand même un creuset qui permet aussi de refaire nation, étant entendu que ça coûte aussi beaucoup d'argent, mais que c'est un investissement utile, d'autant plus si on est dans une logique, et ça paraît très évident, de mixité. C'est-à-dire que tous les garçons et toutes les filles d'une même classe d'âge devraient être concernés.
Alors je voudrais qu'on vienne en France pour parler d'un texte important discuté cette semaine à l'Assemblée, les ZFE, les zones à faible émission de CO2 dans les grandes villes. Ces ZFE pourraient être supprimées. En tout cas, la commission spéciale chargée de les étudier a voté dans ce sens cette semaine à l'Assemblée pour leur suppression. Donc, je rappelle qu'elles sont nécessaires pour améliorer notre qualité de l'air et pour se conformer au droit européen. Vincent Jeanbrun, est-ce qu'il faut les supprimer ou pas? Est-ce que vous y êtes favorable, vous, à ces ZFE?
Écoutez, j'ai beaucoup de collègues, pour pas dire la majorité de mes collègues de la droite républicaine qui sont pour la suppression de cette ZFE. Moi, à titre tout à fait personnel, je suis pour leur suspension le temps qu'on trouve les moyens d'aider les gens à changer de véhicule, parce que je pense que il faut pas qu'en supprimant ces ZFE, on donne l'impression que il y a plus de sujet de pollution de l'air. Aujourd'hui, la pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. En revanche, si on pense arrêter ces 40 000 morts en punissant ceux qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, effectivement, on passe complètement à côté de l'objectif. Donc il faut accompagner les Français, les aider à changer de véhicule, les encourager. Il faut que ce soit positif. Pas faire d'eux des criminels, mais justement changer de braquet et dire « soyons tous ensemble des héros qui sauvons des vies ». Et pour ça, ça passe par des aides à la conversion des véhicules. Et
ça a
là,
été fait,
coup,
ça, hein, il y en a
le
eu.
Très faible, très très faible.
Pas suffisamment,
et
d'accord.
Notamment parce que le président Macron nous avait promis, vous savez, le leasing de la voiture électrique à moins de 100 euros, etc. On ne sait pas où ça en est aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Donc, ayons des vrais outils, permettons aux Français de moins polluer pour sauver des vies, ça oui. Maintenant, là, je vous exprime mon point de vue très personnel, étant depuis longtemps engagé sur les questions de santé environnementale, c'est-à-dire en gros faire baisser tout ce qui pollue et a un impact sur notre santé ou notre espérance de vie autour de nous.
Donc tous vos collègues députés sont pour la suppression et vous êtes contre. Vous êtes un peu seul, quoi, dans votre combat, c'est ça ?
Bah écoutez, je ne me sens pas seul, parce qu'on peut dialoguer avec les copains députés. C'est évidemment... moi, je suis un urbain, je suis élu de la banlieue parisienne. Et je vois l'impact de la pollution tous les jours sur mes concitoyens. J'étais maire de l'Ille-et-Rose pendant 10 ans.
Sur leur santé, vous voulez dire ?
On a tout à fait. On a le triste record d'avoir 14 voies d'autoroute qui coupent en deux la ville de l'Ille-et-Rose, avec tout ce que vous pouvez imaginer de pollution, de bruit. Tout ça, ça a un impact sur la santé des gens. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Pour autant, moi, je comprends tous mes collègues députés qui ont des citoyens qui tous les jours leur disent, mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après m'avoir expliqué pendant des années qu'il fallait que j'achète une voiture au diesel, maintenant on me dit jette le diesel, passe à l'essence, je passe à l'essence. Ah ben non, jette l'essence, faut passer à l'électrique. Sauf que quand vous habitez à plus d'une heure en voiture de la ville centre, c'est très compliqué. Et je pense qu'il faut là-dessus faire en sorte que la ZFE ce soit pas la zone à forte exclusion, comme disent certains. Donc bien sûr qu'il fallait le remettre en débat, bien sûr qu'il faut se poser les questions. Maintenant, encore une fois, moi je suis pas contre la voiture, par contre je suis contre la pollution. Donc il faut qu'on trouve un chemin et un intermédiaire.
Merci beaucoup Vincent Jeanbrun. Merci. Vous restez avec nous évidemment, l'émission se poursuit bien sûr avec notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
Bonjour Jean-Marc Salmon. Soyez le bienvenu sur le plateau de questions politiques. Vous êtes sociologue et vous venez de publier un livre d'analyse sur les 10 années de vie politique de Donald Trump à partir de 2015, donc sa première campagne, et jusqu'à aujourd'hui avec le début donc de ce second mandat. Livre que vous avez intitulé « Donald Trump, la politique à la renverse » et c'est sorti aux éditions Les Petits Matins. Qu'est-ce que ça nous apprend, Jean-Marc Salmon, d'observer comme ça Donald Trump sur la totalité de sa carrière politique? Est-ce que c'est cohérent et est-ce qu'il n'a jamais changé de tactique?
Non. Il est au contraire quelqu'un d'extrêmement prévisible. Voilà. Il fait beaucoup de bruit et donc c'est une tactique, ça déconcerte les gens. Ils sont toujours en train de chercher, de courir après la dernière information, mais ils n'ont pas fini de trouver les tenants, les aboutissants de l'information, qu'il y en a une nouvelle qui tombe, etc. Voilà. Alors évidemment, c'est déconcertant, mais en fait, quand on regarde, comme moi, pendant 10 ans, ce qu'il a fait, on se rend compte qu'au fond, il dit toujours la même chose et il fait toujours la même chose.
C'est-à-dire
que premièrement, il avait la première fois qu'il a pensé aller en politique, il a acheté une page de publicité en New York Times, ce qui vaut quand même beaucoup, pas mal d'argent, et dans d'autres journaux. Et il a défendu déjà à l'époque, c'était dans les années, à la fin des années 80, il a défendu la question de remettre les droits de douane, voilà. Hein. Il a défendu la question qu'il fallait trouver des accommodements avec Moscou, on y est toujours. Enfin, etc. Mm-hmm. Voilà. Si vous prenez ce qu'il fait quand il est président de la République, il a été maintenant, c'est la deuxième fois qu'il est président, il fait ce qu'il a dit qu'il ferait pendant la campagne. Voilà. Mm-hmm.
Alors, il est président des États-Unis, hein, pas de la République française.
Qu'est-ce que ça veut dire? La République américaine.
Qu'est-ce que ça veut dire la politique à la renverse, puisque c'est ça le titre de votre livre? Ça veut dire quoi, ça, ce titre? À la renverse de quoi?
Au fond, Depuis la révolution, les révolutions françaises et américaines, au fond, depuis les Lumières, nos systèmes politiques fonctionnent d'une façon qui est assez simple. Progressivement, ils sont apparus des partis. On doit s'imposer, devenir une personnalité dans le parti. Et puis, à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, on se posera la question de savoir qui va défendre les couleurs du parti à l'élection présidentielle. Et puis, dans un deuxième temps, on se tourne vers les médias parce que les électeurs vont voter. Donc, on a une hiérarchie qui était extrêmement simple.
Lui, il n'a pas fait ça, c'est ça?
Lui, il fait exactement le contraire. Il la met à la renverse. C'est-à-dire que, au lieu de finir par les médias, il commence par les médias. Il est son média. Il fait campagne contre l'appareil républicain, voilà, en s'appuyant sur son compte Twitter et son compte Facebook, où il a 2 millions de personnes déjà derrière lui, quand il arrive. Et c'est comme ça qu'il va s'imposer.
C'est-à-dire, c'est le contact direct qu'il arrive à créer avec les Américains, si je vous suis bien, à travers ses réseaux sociaux, qu'il rend très fort.
Tout à fait. Ce qui change profondément la politique, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, c'est-à-dire du contact, ce qu'on appelle dans le jargon sociologique ou de la finance, la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire.
Françoise. Alors, est-ce que c'est un vecteur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire, c'est un vecteur qui est au fond, qui permet d'éclore quelque chose qui est peut-être plus profond qu'une crise démocratique, c'est-à-dire la crise de la représentation, c'est les partis s'affaiblissent, pas seulement aux États-Unis, dans beaucoup de démocraties, et est-ce que c'est pas au fond ça le cœur, c'est qu'une partie de l'électorat conteste la façon dont fonctionne la démocratie représentative?
On rentre dans une la désintermédiation, ce qu'on appelle la désintermédiation, l'absence d'intermédiaire, ça n'est pas propre un phénomène seulement propre au monde politique. C'est comme ça dans la finance. Les bouleversements qu'il y a eu dans la finance depuis 50-60 ans sont basés sur la désintermédiation. C'est un phénomène général qui se produit. Voilà.
C'est-à-dire qu'on conteste les codes traditionnels de tout, de la finance, de la politique, etc.
Vincent, et ça permet, au final, on en parlait rapidement hors antenne tout à l'heure, d'avoir des candidats qui vont prendre la tête du système en ayant fait toute leur campagne sur l'anti-système, en fait. Et dire, moi, je ne reconnais plus aucun intermédiaire, ce qui permet au passage de faire des fake news toute la journée sans que personne vienne les contester. Et à la fin, on dirige le système sans jamais avoir dû respecter la moindre règle.
Si vous voulez, ce processus, il est quand même d'un côté sympathique pour les gens, puisqu'on leur dit il n'y aura plus d'intermédiaires, vous allez pouvoir intervenir, que vous soyez un acteur financier ou que vous soyez un électeur, vous allez pouvoir jouer directement. Donc pourquoi vous voulez que les gens soient contre? Vous croyez? Donc c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. Je pense, c'est ce que je souhaiterais qu'arrive dans le débat politique, et c'est comme ça que j'ai conclu mon livre. Je pense qu'il faut réguler les réseaux sociaux. La question, c'est pas de dire les réseaux sociaux c'est bien ou c'est pas bien. Je pense qu'il y a des avantages aux réseaux sociaux. Le problème, c'est que dans ces réseaux sociaux, le mode de fonctionnement qui, lui, est typiquement marqué par les modes de fonctionnement des États-Unis, sont pas du tout, en tout cas, adaptés à ceux que nous avons en Europe.
Mais en même temps, les Américains, et les Français aussi, et sans doute les Européens, sont séduits par ces réseaux sociaux. Et je trouve que vous dites une chose très intéressante au début de votre livre. Vous vous demandez comment une Amérique corsetée dans son puritanisme a pu finalement élire un président comme Donald Trump. Est-ce que finalement ce pays ne cherchait pas justement à désinhiber. Voilà, pardon, à se désinhiber.
Oui.
Quelqu'un qui leur permette de se désinhiber.
Oui.
Donc les gens ne seront pas d'accord pour qu'on régule probablement les réseaux sociaux. Ils ont été contents de sortir peut-être de ce puritanisme. En tout cas, c'est ce que vous laissez entendre dans votre ouvrage.
Bah, écoutez, c'est un des effets de l'époque actuelle, c'est un effet de désinhibition. La parole sur Internet est une parole qui va bien plus loin que la parole écrite, ou la parole même qu'on a l'habitude dans les débats à la radio, pour rester ici. Voilà. Pourquoi elle est comme ça? Parce que, premièrement, il y a l'anonymat. Je m'excuse, mais quand on est ici, vous êtes Monsieur Jean Brun, je suis Jean-Marc Salmon, vous êtes Nathalie Sécard, on sait qui on est. Voilà. Pourquoi on accepte l'anonymat sur les réseaux sociaux? Il faut se poser la question. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de carte d'identité. Il n'y a pas de papier d'identité. Toutes les tentatives pour instaurer une carte d'identité aux États-Unis ont été refusées. Voilà. Alors, aux États-Unis, n'importe quel bout de papier où il y a une photo et votre nom, c'est une pièce d'identité. Voilà. Alors, évidemment, si Internet était né ici, les réseaux sociaux étaient nés en France, évidemment, on aurait dit, vous devez, comme pour le permis de conduire, pour les élections, tout ça, vous devez mettre votre nom, et c'est vous qui êtes présent sur les réseaux sociaux.
Vincent Jeanbrun.
On voit dans le livre, c'est très bien expliqué, qu'aujourd'hui, on manipule l'opinion publique, donc la démocratie, à travers les réseaux sociaux, notamment parce que vous me le disiez, la moitié des comptes qui suivent Donald Trump, c'est des robots.
Absolument.
Donc il faut à un moment donné à la fois sortir de l'anonymat, et je pense que les parlementaires doivent changer la loi à ce niveau-là, vous avez raison, et au-delà de se poser la question de comment on se protège, j'allais dire même techniquement, de la manipulation par des robots. Parce que aujourd'hui, c'est nos démocraties qui sont mises en danger, et je pense que votre interpellation à travers ce livre, elle est très, très saine pour qu'on prenne conscience de ce qui nous menace et qu'on prenne les mesures.
Je suis content que vous réagissiez comme
alors
ça.
J'amène un peu, parce que là, il est trop d'accord avec vous. Ce que je veux savoir quand même, malgré tout, c'est que il y a aussi des gens qui sont admiratifs de ce qu'ils voient se faire aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de copier là le modèle Trump et qui ont la capacité à ressembler à Trump?
Mais on en est déjà au-delà de ça. Si on regarde quand même l'élection qui s'est produite en Allemagne, il y a seulement quelques semaines, dont vos auditeurs ont entendu Madame Loiseau la dernière fois.
La semaine dernière, dans Question Politique.
Alors, Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle nous a dit quand même... Alors, elle nous a rappelé que Musk est venu dans les réseaux sociaux et a fait la même chose qu'il avait fait avec Trump aux États-Unis au mois d'août. Il a fait un débat avec elle, avec Alice Weidel, qui est la patronne de l'extrême droite allemande.
Alternative für Deutschland, AfD.
De l'AFD, voilà. Alors, c'est déjà important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Musk. Il y a des millions de gens qui suivent Trump, des dizaines de millions de gens qui suivent Musk. Donc ça ramène évidemment beaucoup d'attention. Il n'a pas accordé ça aux autres participants à l'élection allemande. Et puis deuxièmement, elle a quand même dit quelque chose que je pensais extrêmement grave, et on est surpris qu'il n'y ait aucun retour sur ce qu'elle a dit la dernière fois. Elle nous a quand même dit qu'il y a une commission... Il y a des gens qui ont préparé un rapport pour la Commission européenne sur les irrégularités dans le fonctionnement du réseau social X pendant la campagne électorale, que les postes de l'AFD étaient poussés, en tout cas que les représentants des autres partis avaient le sentiment que eux, leurs interventions sur X étaient minorées
par rapport aux autres.
Et ça pose la question, évidemment, premièrement, de l'algorithme. Qui peut le démontrer ? Personne. Vous n'avez pas accès à l'algorithme. Vous allez devoir dire combien de gens ont fait des postes et combien ces postes... Vous voyez ? Donc, non, mais rapidement. C'est une question, si vous permettez. C'est une
très
question.
Vite.
Faisons un tout petit peu de politique
fiction.
Ah non,
très vite.
Je fais très vite. Eh bien, dans 2 ans, il y a une présidentielle en France. Vous verrez que Elon Musk et Vance vont venir. Vous verrez que Elon Musk et X vont, évidemment, jouer leur jeu. Et qu'est-ce qu'on dira après l'élection si on n'a pas pris de mesures pour réguler ? Que dira le Conseil constitutionnel sur le résultat d'une élection qui
merci
va se jouer peut-être à 1 ou 2% ?
À tous les deux, Jean-Marc Salmon, merci à Vincent Jeanbrun également d'avoir été sur le plateau de questions politiques. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous et je vous dis à la semaine prochaine.